Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi soir, 7 janvier 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci d'être avec nous. Au deuxième jour d'une opération conjointe à grande échelle impliquant plusieurs unités militaires iraniennes à Semnan, au centre du pays, le drone intercepteur Karar a mené avec succès des opérations d'interception aérienne et détruit avec succès des cibles hostiles. Israël a tiré mercredi soir plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan. La destroyer syrienne en a intercepté la majorité. Et 4 personnes ont perdu la vie lorsque des partisans du président sortant américain ont occupé le Capitole mercredi, selon la police de la ville de Washington. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Au deuxième jour d'une opération conjointe et à grande échelle impliquant plusieurs unités militaires iraniennes à Semnan, au centre du pays, le drone intercepteur Karar de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran a mené avec succès des opérations d'interception aérienne et détruit avec succès des cibles hostiles. Lors des exercices, l'armée iranienne a mené avec succès ce mercredi 6 janvier le tir du missile RR Azarash monté sur le drone Karar qui a détecté et détruit avec succès une cible de faible observabilité radar et depuis une haute altitude. La destruction de cibles de surface, des fortifications et des positions ennemies avec des drones Karar équipés de bombes MK-82 d'environ 227 kg ont également été menées avec succès à ce stade des manœuvres. Le contre-amiral Mahmoud Moussavi, chef adjoint des opérations et porte-parole des exercices, a déclaré à cette occasion que la surveillance continue des frontières à l'aide de drones de combat fait également partie des entraînements à grande échelle de drones de fabrication nationale. La surveillance des frontières du pays se fait aujourd'hui de manière très précise à l'aide des systèmes de drones équipés d'une variété de caméras de surveillance, de systèmes de reconnaissance et de collecte de données électroniques, a-t-il précisé. À ce stade des exercices, un certain nombre de drones de l'armée ont effectué avec succès des opérations de reconnaissance, détectant des cibles fixes et mobiles le long des frontières terrestres, a-t-il dit. Aujourd'hui, l'armée de la République islamique d'Iran est en mesure de répondre à toute agression de l'ennemi en utilisant divers types de drones de combat à longue portée et de viser les cibles dans un rayon de 2000 km. A fait savoir le chef adjoint des opérations de l'armée iranienne. L'Iran est équipé des derniers missiles air-surface et bombes ponctuelles. La défense anti-aérienne de l'armée syrienne a repoussé dans la nuit du 6 au 7 janvier une attaque israélienne contre les quartiers sud de Damas. Israël a tiré plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan. La DSA syrienne en a intercepté la majorité. Auparavant, des avions de chasse israéliens ont mené des frappes de missiles via l'espace aérien libanais ou jordanien sur des cibles dans l'est et le nord-ouest de la Syrie, mais la DSA syrienne les ont également affrontés. Un responsable militaire proche du ministère syrien de la Défense a affirmé qu'Israël avait tiré mercredi à 23h10, heure syrienne, plusieurs roquettes depuis les hauteurs du Golan lors des frappes aériennes contre des cibles dans le sud de la Syrie auxquelles les systèmes de défense aérienne se sont opposés. Au Yémen, les combattants d'Ansar Allah ont abattu un drone Karayel dans la région d'Al-Muashama, au nord de la province d'Al-Jawf. Le drone est fabriqué par la Turquie et appartenait à l'armée saoudienne. Plus tôt, le 30 décembre 2019, Ansar Allah avait abattu un autre drone Karayel dans la zone de Salif de la province d'Al-Udaïda. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a écrit mercredi sur son compte Twitter que l'avion sans pilote appartenant à l'agresseur saoudien a été abattu par la défense antimissile du Yémen. Il a été visé alors qu'il menait une mission d'espionnage dans l'espace aérien du Yémen. Avec l'interception de ce drone saoudien, l'année de la défense aérienne commence bien. L'armée se réserve le droit d'abattre tout appareil qui violerait l'espace aérien du Yémen, a-t-il entériné. Ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. Le président congolais et le ministre chinois des Affaires étrangères se sont entretenus mercredi 6 janvier à Kinshasa. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a espéré que le comité économique et commercial conjoint entre les deux pays serait réouvert dès que possible afin d'obtenir des résultats plus bénéfiques pour les deux parties dans le domaine de la coopération bilatérale. Au cours de cette visite, les deux pays ont signé un protocole d'entente pour la coopération sur l'initiative La Ceinture et la Route qui portera la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays à un niveau supérieur comme l'a déclaré le ministre chinois Wang Yi, pour lequel la coopération entre la Chine et la RDC est une coopération sud-sud et une aide et un soutien mutuel entre amis. La RDC, qui assumera bientôt la présidence tournante de l'Union africaine, est disposée à participer activement à la coopération Afrique-Chine et invite davantage d'entreprises chinoises à investir dans le pays et à renforcer la coopération en matière d'infrastructures et dans d'autres domaines, a déclaré Tshisekedi. La Chine et l'Afrique forment une communauté de destin et le Forum sur la coopération sino-africaine, FCSA, a joué un rôle important pour favoriser les relations entre la Chine et l'Afrique ainsi que le développement des pays africains, a indiqué pour sa part le ministre chinois. La Chine salue le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine au 1er janvier de cette année. Elle soutient les efforts de l'Afrique pour se renforcer en encourageant l'unité et l'intégration. Elle espère que l'Afrique pourra jouer un rôle plus grand dans les affaires internationales, a-t-il poursuivi. Le chef de la diplomatie chinoise s'est également entretenu avec son homologue congolaise, Marie Tumbanzeza. Suite à ces discussions, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un protocole d'entente entre les deux gouvernements pour promouvoir ensemble la construction de l'ICR, l'initiative La Route et la Ceinture. Et pour fermer le journal, aux États-Unis, 4 personnes ont perdu la vie lorsque des partisans du président sortant Donald Trump ont occupé le Capitole mercredi, selon la police de la ville de Washington. L'une d'entre elles a été tuée par balle. Les 3 autres sont mortes en raison d'urgence médicale pendant les violentes manifestations au Capitole, a déclaré dans la soirée le chef du département de la police métropolitaine, Robert Conti, ajoutant que 52 personnes ont été arrêtées. Dans la nuit, la maire de Washington DC, Muriel Bowser, a prolongé l'urgence publique à 15 jours jusque lendemain de l'inauguration du président élu Joe Biden en réponse à l'occupation du Capitole. Mercredi après-midi, les partisans de Trump ont franchi les barrières pour envahir le Capitole, interrompant la certification des votes électoraux de l'élection présidentielle de 2020 et entraînant un verrouillage de la zone. La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle a été validée par le Congrès américain. La procédure de certification a repris après l'intrusion de partisans de Trump dans l'enceinte du Capitole. Le vice-président Mike Pence a déclaré que le Congrès avait confirmé le décompte des résultats des États du collège électoral et qu'une transition ordonnée aurait lieu le 20 janvier, même s'il est totalement en désaccord avec le résultat de l'élection. Joe Biden était qualifié de vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre contre le président sortant Donald Trump. Au total, 306 grands électeurs s'étaient prononcés en faveur du candidat démocrate Joe Biden contre 232 en faveur du président sortant Donald Trump. Auparavant, le président Trump avait appelé les membres républicains à renoncer à la certification des résultats. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique qui porte sur le même sujet. D'État aux États-Unis, faire d'une pierre deux coups. Presque un an après avoir cru décapiter pour de bon la résistance moyen-orientale, conduite par un général d'origine iranienne, mais désormais transfrontalier, l'Empire s'effondre sous les yeux terrifiés des foules d'affidés. Du Golfe Persique à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique du Sud, c'est une imposture dite « démocratie US » qui est partie en fumée dans la nuit de mercredi à jeudi 7 janvier. Le Capitole a été pris d'assaut par une armée trampienne libre sur laquelle les forces de l'ordre fidèles au régime, ou selon des analystes alternatifs, État profond, ont tiré. Une femme, dont le parcours appelle le Tunisien Mohamed Bouazizi, a été tuée. Son corps gisait par terre sous les caméras du monde entier, en plein Parlement, là où la plus soi-disant grande démocratie du monde enfante des actes guerriers, racistes et discriminatoires à longueur d'années. L'émeute du Capitole aura été un concentré de tous les projets issus des think tanks américains. Révolution de couleur, printemps arabe, pré-guerre anti-syrienne, anti-irakienne, anti-iranienne, anti-yéménite. Et il ne manque qu'un Kadhafi et le sort terrifiant qui lui a été réservé par Hillary Clinton, qui très effrontément a affirmé dans un tweet hier soir « Les pro-Trump sont des terroristes ». Mais chef terroriste ou chef de gang, ce sera à coup sûr Donald Trump qui fera le Kadhafi de l'histoire, à moins qu'il prenne la poutre des scampettes et, comme le roi d'Espagne, s'exile dans le golfe Persique aux Émirats, soit à la porte d'une résistance qui le tient, lui et Israël, source de ses malheurs, sur sa liste noire. Des échanges de feu en plein Parlement US entre policiers et émeutiers, un engin explosif neutralisé en plein bâtiment, un état d'urgence déclaré sur l'ensemble du territoire américain, puis un couvre-feu à Washington. Un millier pro-Trump à la tête du Pentagone qui refuse de répondre à la demande du maire de la capitale d'appuyer la garde nationale déployée au Congrès et qui, pas plus tard qu'il y a une semaine, avait été poussé par le corps des généraux guerriers de l'US Army à revenir sur sa décision de rapatrier l'USS Nimitz du Moyen-Orient en pleine tension avec l'Iran. Tout ceci veut dire que le coup d'État déclenché par Trump a porté ses fruits, que le temple du libéralisme occidental du dollar roi a franchi un seuil irréversible et que les États-Unis s'écroulent de leur propre poids pour plonger dans une longue période de sédition, d'émeutes, de révoltes, de la faim et de guerre civile. Comme si des décennies de crimes commis à travers le monde venaient soudain à se retourner contre eux. Ce à quoi la bien-pensance US ne saurait répondre que par des guerres extraterritoriales. cette guerre nourricière dont l'Amérique moribonde a un besoin urgent aura-t-elle lieu dans le Golfe Persique? Une chose est sûre, si des milliards de pétrodollars saoudo-émiratis finissent par convaincre le putschiste Trump que ce serait la guerre avec l'Iran son ultime échappatoire, l'idée ne serait pas aussi mauvaise, car tout château de cartes s'effondre mieux sous l'effet d'un choc extérieur. Au moment où le Pentagone vit l'une des périodes les plus noires de son histoire, divisé, atomisé comme jamais et que le CENTCOM a perdu toute confiance en soi, une aventure militaire serait fatale à l'Empire. Mais au stade où en est l'Amérique en 2021, décapité, morcelé, déchiré, un peu à l'image de tous ces États-nations contre qui elle a agi depuis des décennies, cette guerre n'est plus improbable. Et dire que juste avant d'être expulsé de la Maison-Blanche, Trump le putschiste a toutes les chances de devenir Trump le kamikaze. Celui qui a fait sauter la méga-bombe au Moyen-Orient, quitte à faire balayer définitivement la présence militaire US de la région.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. L'Iran reprend l'enrichissement d'uranium à 20%. L'annonce a été faite, c'était lundi, par le porte-parole du gouvernement iranien, M. Ali Rabi. Ensuite, il y a eu des réactions du côté du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui, sur sa page Twitter, a souligné que cette reprise d'enrichissement d'uranium à 20% par l'Iran est tout à fait légale et légitime parce qu'elle repose sur une la loi votée récemment par le Parlement iranien qui enjoint le gouvernement iranien de reprendre l'enrichissement d'uranium à 20% si d'autres parties signatrices de l'accord nucléaire de 2015 refusent d'honorer leurs engagements. Ensuite, il y a eu de cette réaction du côté surtout du vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui a souligné que l'Iran a la capacité de passer même à un niveau de supérieur de 20% d'enrichissement d'uranium au cas échange. En fait, les États-Unis ont réagi, c'est tout à fait clair et évident, négativement à cette reprise d'enrichissement d'uranium à 20% par l'Iran, mais les États-Unis en fait ne sont absolument pas qualifié de parler de l'accord nucléaire de 2015 parce que les Américains se sont retirés unilatéralement de cet accord nucléaire. C'était en 2018. Du côté de l'Union européenne, le porte-parole de l'Union européenne a qualifié de regrettable cette décision de Téhéran, tout en disant que l'objectif de l'Union européenne est de préserver l'accord nucléaire. Mais cette prise de position de l'Union européenne intervient à un moment où, jusqu'à présent, les trois pays européens membres de l'accord nucléaire sont restés dans un stade, si vous voulez, de parole, mais n'ont rien fait pour refuser, si vous voulez, cette politique unilatérale des États-Unis pour honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire. Un dernier point avant d'aller en fait vous présenter nos deux experts de cette émission. L'Iran insiste sur ce point que ces mesures prises en ce qui concerne la réduction des obligations de Téhéran sont des mesures réversibles. C'est-à-dire que l'Iran peut revenir, si vous voulez, à ses engagements initiaux pris dans le cadre de l'accord nucléaire si d'autres parties, si vous le membre de cet accord, en font de même. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien, analyste politique et spécialiste des questions internationales, monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je salue mon collègue et je salue tous vos téléspectateurs.
Merci. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un écrivain, analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de M. Jacob Cohen. M. Cohen, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous et bonjour à Luc Michel.
Monsieur Cohen, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet de comment expliquez-vous de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et d'autres pays membres de l'accord nucléaire, s'il vous plaît, de 2015.
L'Iran, disons, comme une partie de poker, l'Iran a un atout formidable pour débloquer la situation. C'est-à-dire que l'Iran est coincé parce que l'Iran a respecté les accords, elle a laissé le contrôle de son développement nucléaire aux mains de l'énergie et de l'agence internationale. Elle a respecté, d'ailleurs c'était reconnu, et donc il y a eu, on a levé les sanctions. L'Iran pouvait commercer, pouvait avoir des avoirs bancaires, etc. Et Trump a suspendu l'accord, ou a violé, ou s'est retiré de l'accord. Donc, l'Iran a perdu du côté économique et commercial et financier, et s'est retrouvé tout en respectant, tout en limitant ses possibilités de développement nucléaire. Et donc, à un moment donné, l'Iran aussi voyait que l'Europe ne suivait pas vraiment. C'est-à-dire, de toutes les façons, l'Europe, il lui est impossible de reprendre totalement les relations à 100%, parce qu'il y a des sanctions à la clé, etc. Donc, l'Europe essaye, disons, de maintenir un niveau minimum de relations pour empêcher l'Iran d'entamer cet enrichissement. Et donc, nous assistons aussi au passage d'une nouvelle présidence aux États-Unis, donc éventuellement une réouverture des négociations. Et donc, l'Iran sort sa carte qui est importante, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Europe, surtout de l'Occident, et dire voilà, moi, je suis prêt à jouer le jeu, mais il faut qu'on revienne, il faut qu'on prenne... Il faut qu'on prenne en jeu mes intérêts financiers et économiques et qu'on revienne au statut défini par le traité.
Merci beaucoup, Jacob Cohen. Permettez-moi de faire également de cette précision que l'Iran agit actuellement dans le cadre, si vous voulez, du traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran respecte pleinement le traité de non-prolifération nucléaire parce que l'enrichissement à 20% par l'Iran s'effectue sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et de celle de ses inspecteurs qui sont présents et qui supervisent les activités pacifiques de l'Iran dans le domaine nucléaire. Luc Michel venait d'entendre les explications de Jacob Cohen. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais je partage son analyse de la situation. Nous avons une expression, un proverbe issu du Moyen-Âge qui dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le cynisme américain qui quitte l'accord pour sanctionner l'Iran et qui demanderait à l'Iran de respecter celui-ci, c'est un cynisme absolu. Vous avez dans votre présentation initiale oublié quelque chose d'important. Hier, le ministère des Affaires étrangères russe, le ministre Lavrov, a déclaré que l'enrichissement d'uranium par l'Iran ne sortait pas du cadre du traité, qu'il était effectué sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique est parfaitement licite. C'est, bien entendu, l'avis d'un important garant des accords de Genève. Mais pour comprendre tout cela, il ne faut pas résumer ça à un problème entre l'administration Trump et l'Iran ou à un changement de président. En fait, la confrontation n'est pas une confrontation bilatérale Washington-Téhéran. Elle est un triangle dans lequel le troisième larron, ce sont les Israéliens. Les Israéliens, c'est eux qui, depuis le départ, prêtent à l'Iran l'accusation de rechercher la bombe atomique, c'est-à-dire d'avoir un programme nucléaire militaire, et tout simplement parce qu'ils sont obsédés par un fait, c'est de rester la seule puissance nucléaire occulte du Proche-Orient. Il faut rappeler qu'ils ont un programme militaire qui a été mis au point dans les années 60 avec l'aide de la France et des États-Unis et qui s'appelle le bouclier de l'Armageddon. C'est 200 têtes nucléaires non déclarées, sans contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et de plus, ils sont montés sur des sous-marins de proche allemands de la classe Delphine. C'est-à-dire que cet arsenal n'est pas fixe, il ne peut pas être menacé. Il est sur des sous-marins qui parcourent la Méditerranée et peut-être, on ne sait pas d'ailleurs, puisque tout cela est clandestin, c'est une menace occulte, peut-être même pile d'ailleurs le Golfe Persique et la mer Rouge. On voit donc les puissances occidentales, les États-Unis qui accusent l'Iran, mais qui ont doté et qui ont un allié disposant d'une arme nucléaire occulte. On voit les Européens qui ont contribué, la France en fournissant à Israël la technologie dans les années 60. Il faut arrêter les discours sur la soi-disant grande politique arabe du général de Gaulle. C'est de Gaulle qui a fourni ça. Et la seconde chose, il faut se rappeler que les Allemands qui donnent beaucoup de leçons à Téhéran, ce sont eux qui ont fourni la technologie, les missiles israéliens qui sont des missiles de croisière modifiés, émergés sur des sous-marins de poste. Tout cela, c'est sorti du cadre militaire allemand et ça a été fait avec direction de Berlin. Les Européens ont une position assez ambiguë, mais moi que je qualifie d'hypocrite, c'est-à-dire que dès le départ, et le bal a été lancé par le ministre Le Drian lorsqu'il est venu à Téhéran, c'est que pour véritablement redonner toute sa portée aux accords de Genève qui ont été strictement respectés par l'Iran, l'Iran devrait ajouter une condition et une négociation supplémentaire, c'est d'abandonner son programme de missiles balistiques, c'est-à-dire l'un des aspects essentiels de sa doctrine de défense nationale. On est donc dans une position hypocrite qui est une position en fait de l'OTAN, c'est-à-dire l'OTAN, les États-Unis, Israël, tout le monde évidemment, est complice comme larron en pointe. C'est cela qu'il faut retirer. Si on ne met pas en avant cet aspect des choses, on ne comprend pas toute cette querelle qui parfois, je ne vous cache pas, pour le public européen, semble parfois nébuleux.
Déjà, Cohen, vous l'avez en fait dit tout à l'heure, du côté en fait des pays européens, il n'y avait pas eu jusqu'à présent au moins des mesures sérieuses pour permettre en fait à l'Iran de bénéficier de l'accord nucléaire et très particulièrement en fait des avantages économiques et commerciaux de cet accord. Ça, ils sont toujours en fait des positions européennes constatées ces dernières années. Les Européens ont reproché à maintes reprises, et si vous voulez, aux des États-Unis que leur retrait unilatéral de l'accord nucléaire en disant qu'il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour en fait préserver l'accord nucléaire. Mais de ces mêmes pays se sont mis du côté des Américains en disant qu'il faut élargir, si vous voulez, les discussions au rôle régional de l'Iran, aux capacités balistiques de l'Iran. Là, les Européens, en prenant une telle position, Jacob Cohen, semble-t-il, ont compliqué, si vous voulez, davantage la situation, n'est-ce pas?
Non, si il faut prendre en considération que les pays européens, enfin on parle de la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, sont des pays majeurs de l'OTAN. Sont des alliés, sont dans l'Occident, c'est-à-dire que ce sont objectivement les alliés d'Israël, militairement, économiquement, financièrement et diplomatiquement, etc. Et donc, ils essayent, ils font semblant de jouer un jeu équilibré. Mais en fait, ils ne le sont pas, et ils ne le pourraient pas de tout, même s'ils le voulaient, les Européens ne pourraient pas reprendre, c'est-à-dire faire fi des menaces américaines de ne pas commercer avec l'Iran, parce qu'il y a des sanctions à la clé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'unilatéralisme juridique américain, qui peut punir toutes les banques, toutes les grosses industries européennes qui iraient contre le boycott décidé par l'Amérique. Donc il y a cette épée de Damoclès l'Europe accepte et joue le jeu. Donc, comment dire, l'Europe essaye de se présenter comme un intermédiaire neutre entre l'Amérique et l'Iran, mais en fait, ce sont fondamentalement des alliés des États-Unis, ce sont fondamentalement des alliés des Israéliens, et donc ils jouent un double jeu, ou comme l'a dit mon collègue, un jeu hypocrite. Et c'est pour ça qu'ils pourraient pas, l'Iran ne peut pas compter vraiment sur eux.
Jacob Cohen, vous dites que voilà, il s'agit en fait d'une épée de Damoclès, si vous voulez, des États-Unis sur les Européens. Peut-on parler également d'une épée de Damoclès d'Israël sur les Européens pour expliquer une telle prise de position de la part de l'Europe?
Vous savez, cette crise, si on peut appeler ça une crise entre l'Iran et l'Occident, elle a été montée de toutes pièces depuis 20 ans par Israël. C'est depuis une vingtaine d'années que les médias israéliens, la diplomatie israélienne fait pression sur l'Occident, sur l'Amérique, tout le temps que l'Iran va avoir l'armement nucléaire, etc. Et donc, en fait, sans le pressing israélien auprès des Occidentaux, je pense que le problème ne serait pas posé. Et donc, comme Israël fait toujours marcher le mythe de l'Holocauste, on va être emporté, les comparaisons entre Ahmadinejad et Hitler, etc. Et donc, il va y avoir un nouveau génocide. Et comme l'Occident, dès qu'il y a l'antisémitisme entre en jeu, dès qu'il y a une menace même fictive sur Israël, l'Occident, il oublie sa rationalité et il se met du côté d'Israël. Donc en fait, c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Et donc finalement, l'Europe s'est mise par la force des choses dans cette dynamique de pression, de chantage vis-à-vis de l'Iran.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec, vous êtes du même avis avec Jacob Cohen lorsqu'il dit que voilà, si de ces pays de jouent, si vous voulez, un double de jeu, c'est parce qu'ils sont premièrement majoritairement membres de l'OTAN et partant de là, alliés, si vous voulez, d'Israël?
Oui, tout à fait. Il faut quand même constater une chose, c'est que en concluant les accords de Genève, on a oublié qu'il existait un bloc militaire américano-occidental et que, justement, les principaux membres de l'OTAN et alliés des États-Unis, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est la Grande-Bretagne. Il y a d'autre part cette histoire de l'universalité des lois américaines, mais qui aurait parfaitement pu faire l'objet d'un contre-programme de sanctions. Au contraire, dès que ça a été soulevé par les Américains, les Européens ont quitté le marché iranien, alors que ce marché était essentiel à la relance économique en Europe. Souvenez-vous de la visite de Mme Mogherini en Iran. Et secondement, non seulement ils ont soulevé comme objection à la reprise, principalement la raison pour laquelle Trump avait quitté les accords de Genève, qui était le programme balistique iranien, et la défense, l'axe de la résistance. Lorsque vous suivez les médias d'État, RFI, LCI, Arte particulièrement, qui est financé par Berlin et Paris, vous constatez une animosité permanente envers non seulement l'Iran, mais ses alliés, le gouvernement de Damas et le Hezbollah. c'est tous les jours en permanence. Les experts de Seychelles, ce sont des monarchistes, des monarchistes iraniens, des anti-Bachar el-Assad. Il y avait encore hier un film d'espionnage sur Arte, où on présentait le Hezbollah comme un mouvement terroriste d'assassins d'enfants. C'est cela qui donne le ton. On ne peut pas avoir cet angle idéologique et en même temps prétendre qu'on est un des garants neutres de l'accord de Genève. C'est ce que les Russes ont bien compris d'ailleurs. Ils ont très bien compris par leur déclaration, en rappelant les choses, c'est-à-dire qu'il y a une légalité internationale. En fait, Moscou a ouvertement critiqué la position des autres signataires des accords de Genève. Les États-Unis de Trump, évidemment, bien entendu, ont une position insoutenable, mais les Européens ont une position qui est tout aussi insoutenable. Je vous l'ai dit, le drame, c'est que les trois garants de Genève, ce sont les principaux alliés militaires des États-Unis dans l'OTAN, pour lequel Israël est un membre de l'Alliance, et pour lequel, on a dit d'Israël qu'il était le membre occulte de l'OTAN, et pour lequel Israël est un espèce de porte-avions américain au cœur du Proche-Orient.
Alors, Luc Michel, s'agissant en fait de Tel Aviv, il y avait surtout cette déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a menacé l'Iran.
Écoutez, Netanyahou mène un show depuis des années sur cette question-là. Rappelons-nous son show de l'ONU où il avait présenté des espèces de schémas idiots qui tentaient à démontrer que l'Iran était au bord de disposer de l'arme atomique. C'est ce que racontent les Israéliens depuis des années. Simplement, au niveau, lorsque s'est établie l'administration Trump, ça a été la likoudisation absolue de la politique américaine. C'est d'ailleurs un dirigeant de l'AIPAC, le lobby pro-israélien, Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, c'est lui qui a été chargé de négocier principalement ce qu'on a appelé le New Deal et qui a piloté cette politique américaine là-bas, avec en plus l'ambassadeur Friedman, qui est un sioniste exacerbé, qui porte la kippa, c'est lui notamment qui a fait établir la capitale israélienne à Jérusalem au mépris des lois internationales. Est-ce que la nouvelle administration va revenir sur les pas de l'ancienne? Il est probable. Vous savez que les réseaux Obama, Clinton, Soros, dont Joe Biden n'est qu'un des porteurs de valises, Kamala Harris, qu'on appelle Miss Soros aux États-Unis parce qu'elle doit toute sa campagne, ce sont des gens, évidemment, qui ont une autre vision et qui pensent qu'ils réussiront à contenir l'Iran par une politique internationale, par ses accords, etc. On peut supposer les voir revenir, mais les Israéliens sont derrière pour envenimer les choses. Tout le monde sait qu'en Iran, on ne discutera pas le programme balistique, on ne discutera pas la constitution de l'axe de la résistance, tout simplement parce que c'est au cœur de votre doctrine de défense nationale et que cette doctrine est légitime.
Merci beaucoup.
Il y a un exemple qui pèse sur toute cette politique, c'est la destruction de la Jamahiriya de Kadhafi en 2011, par les mêmes d'ailleurs, par Obama, Clinton, etc. Et Kadhafi avait commencé en 2003 par accepter le désarmement. Il avait désamorcé ses politiques de destruction massive, il avait désamorcé la recherche, il avait même été plus loin puisque il avait livré l'état de ses recherches, etc. Et on a vu comment ça a terminé. Ça a conduit la Corée du Nord, par exemple, à inclure dans les dispositifs de commentaires de sa constitution qui fait de l'arme nucléaire coréenne un dispositif de sa défense nationale, d'inclure le cas de parler du cas de la Libye. Dans le cas de l'Iran, on a au contraire une puissance qui n'ose pas chercher l'arme atomique, malgré tout ce que racontent les Israéliens. Au contraire, l'ayatollah Khamenei a toujours précisé, pour des raisons qui sont des raisons morales, qu'il était opposé à l'arme nucléaire iranienne et que cette arme nucléaire qui repose sur une dissuasion par la terreur, que ce soit celle de la destruction massive des grandes puissances ou ce qu'on appelle la dissuasion du faible au port, telle que la pratiquent les Français ou les Nord-Coréens, tout cela ne peut conduire qu'à l'abîme géopolitique. Les Iraniens ont toujours été clairs là-dessus. il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments qui conduisent à une bombe atomique. L'Agence internationale de l'énergie nucléaire a toujours contrôlé le programme. Et quand il y a eu des problèmes avec celle-ci, c'est parce que précisément, les Occidentaux avaient conduit à envenimer les choses.
Merci.
C'est ça le rapport. Simplement, Israël veut rester la seule puissance nucléaire du Proche-Orient. Elle prête aux Iraniens ce qui a été ses préoccupations à elle, c'est-à-dire la constitution d'une arme nucléaire clandestine. Et en plus, elle est effrayée par une course à l'armement nucléaire au Proche-Orient.
Merci beaucoup.
On sait que c'est une hypothèse, si l'Iran se dotait d'une arme atomique, on sait que les Saoudiens continueraient, ils en ont les moyens, ils en ont les contacts, ça serait immédiat. Les Français leur vendraient probablement la technologie. C'est cela qui révèle la grande peur israélienne. C'est ce qui fait que cette équation de Genève, elle ne tenait pas, parce qu'il manquait le membre. On parle de clandestinité de l'arme nucléaire israélienne, mais le négociateur clandestin de Genève, c'était Israël. On disait à l'époque, c'était le ministre Fabius, d'ailleurs français, qui était le véritable représentant à la table de négociation d'Israël. Il faut souvenir...
Merci
enfin,
beaucoup, Luc Michel. Nous sommes malheureusement arrivés en fait à la fin de notre émission. Vous faites toujours des analyses pertinentes et ça sera pour une autre émission. Merci infiniment, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements.
Je vous en remercie, à bientôt.
Je vous en prie. Mes vifs remerciements vont également à Jacob Cohen, écrivain, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Pratique des courants takfiristes. Nouveau cycle de frappes terroristes en Syrie. Une embuscade signée par Daesh qui multiplie ses attaques contre le centre et l'est de la Syrie vise à faire croire à une émergence de Daesh et à justifier le maintien de la présence américaine au Levant. Mais cela risque de tourner très mal si on prête bien attention à la position de Moscou. Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, affirme que la guerre est finie en Syrie. Mais la présence américaine sur la rive est de l'Euphrate à Al-Tanf ou celle de la Turquie à Idlib, ou des Kurdes au nord-est de la Syrie, sont propres à rapidement compliquer les choses. Cette situation est inhérente à l'absence de l'État dans ces régions, qui, combinée à la crise épidémique, rend les choses ingérables. Cela veut dire que la Russie, qui mène en ce moment même des campagnes intensives de bombardement contre la Turquie atlantiste, se prépare à en faire autant en Syrie centrale et orientale. Car hors de question qu'à l'approche du changement de direction à la Maison-Blanche, l'armée syrienne et ses alliés lui laissent l'occasion de ramener les choses en arrière. Ce dimanche, des terroristes ont tendu une embuscade à des bus circulant sur une autoroute dans le centre de la Syrie. 9 personnes, dont 6 soldats, ont été tuées. C'est la deuxième embuscade de cette semaine qui vise les bus circulant entre les zones contrôlées par le gouvernement syrien. Le groupe terroriste Daesh est tenu pour responsable de cette attaque. Mercredi dernier, une attaque attribuée toujours à Daesh, mais évidemment planifiée par les États-Unis, s'est soldée par la mort de 30 personnes, dont la plupart étaient des soldats qui rentraient chez eux pour les vacances. Mais le plan B des États-Unis et de leurs alliés comporte aussi une dimension clairement anti-russe. La semaine dernière, les terroristes pro-Turquie ont pris d'assaut les bases russes près des frontières turques. Moscou a lancé une vaste campagne de bombardement contre le sud d'Idlib et d'Ain Issa. Mais le camp atlantiste n'en est pas resté là. Les médias syriens ont rapporté qu'une puissante explosion s'était produite près de la base des forces aérospatiales russes à Ramishli. Les sources d'information ont signalé une puissante explosion près de la base des forces aérospatiales russes située dans le sud de la ville de Ramishli. Il s'agit d'une base aérienne russe dotée de batteries de S-400 non loin des frontières turques que les Américains aimeraient voir bien être démantelée, tout comme cette autre base aérienne Maimim. La réponse russe n'a pas tardé. Des hélicoptères Mi-28 de l'armée russe ont décollé de la base de Ramishli pour une opération spéciale anti-Daesh dans le désert de Deir ez-Zour, raids qui se multiplieront pour s'étendre sans doute aux positions américaines si les États-Unis continuent à amplifier à l'avenir. L'armée syrienne, secondée par l'aviation russe, a lancé une opération d'envergure contre les résidus de Daesh dans le désert de Deir ez-Zour pour venger le sang de 44 soldats syriens tués par les États-Unis dans une attaque menée sous couvert depuis Al-Tanf contre Al-Baïda al-Sham et visant il y a 3 jours un convoi militaire syrien. Cette opération d'envergure qui rapprochait les positions de l'armée syrienne au camp américain à Al-Tanf intervient à peine quelques heures après une frappe hybride contre la base américaine à Deir ez-Zour, soit non loin du champ pétrolier d'Al-Omar, frappe visiblement menée par la résistance est-syrienne. L'opération des forces de l'armée syrienne et de leurs alliés de la résistance a pour nom embuscade d'Al-Baïda et elle se déroule dans le désert méridional de Deir ez-Zour. Cette vaste opération s'effectue à un moment où les terroristes de Daesh ont attaqué à plusieurs reprises ces dernières semaines les positions de l'armée syrienne ainsi que les civils dans la province de Deir ez-Zour. Mais dire qu'il s'agit uniquement d'une riposte vu les moyens mobilisés et le nombre d'effectifs engagés, c'est aller un peu rapidement à la besogne. En effet, parallèlement à des agissements turcs dans le sud d'Idlib et à Ain Issa, qui suit le calendrier américain et de l'OTAN et qui se heurte à la réponse puissante de l'armée syrienne et de ses alliés, l'Est syrien est le théâtre d'un resserrement de l'étau autour des forces américaines qui vont d'un revers à l'autre, prises régulièrement pour cible et sans oser en parler. Il y a peu, la Russie a envoyé à Abu Kamal, au lieu de la résistance en Syrie, un contingent et des informations font état du déploiement des radars russes à Deir ez-Zour, où la DCA syrienne est déjà déployée. Les frappes russes contre Deir ez-Zour et Homs relèvent en effet d'un état de siège qui se renforce autour d'Al-Tanf. Les forces volontaires populaires Al-Fada al-Watani participent ainsi et depuis vendredi à cette offensive de l'armée syrienne contre les agents américains dans l'est de la Syrie. L'armée syrienne bénéficie dans son opération de l'appui de l'aviation russe qui a mené des dizaines de frappes contre les repères des terroristes. En vue, les images des raids russes lancés contre les agents américains de Maravil al-Soura venus d'Al-Tanf, la détermination de Moscou à en découdre avec les États-Unis est bien claire. Le site web russe Avia Pro a publié une vidéo d'une frappe au hélicoptère au centre de la Syrie contre les agents américains. Des séquences vidéo prises dans la partie centrale de la Syrie et qui ont capturé l'attaque féroce des forces aérospatiales russes contre les terroristes de Daesh soutenus depuis Al-Tanf. Selon les données disponibles, non seulement des bombardiers et des chasseurs des forces aérospatiales russes, mais aussi des hélicoptères d'attaque Mi-28 ont été utilisés dans ces raids et qui font cercle après cercle, lançant des attaques puissantes avec des missiles non guidés sur les positions des terroristes et tirant sur les fortifications avec des canons aériens. Plus de 60 frappes ont été infligées aux Américains, frappes qui, ajoutées aux attaques aux missiles et aux drones de la résistance visant les bases américaines, font de l'Est syrien un enfer intenable pour l'armée américaine et ses alliés.
Thank you.